Mika Podcast.
Ésotérisme, paranormal et mystère.
Bienvenue dans cette exploration fascinante des savoirs druidiques. On va se baser sur des extraits de La science des druides de Gwenc'hlan Le Skouzec.
Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment de dépasser un peu les images d'Épinal, quoi.
Exactement. Qui étaient-ils vraiment ? Des simples prêtres ? Des sorciers un peu effrayants ? Ou peut-être quelque chose de bien plus profond, comme certains auteurs antiques le laissaient déjà entendre.
Ben oui, c'est ça qui est frappant. Prenons Cicéron, par exemple. Pas vraiment un rêveur, hein.
Plutôt pragmatique, oui.
Voilà, et il connaissait personnellement un druide, Diviciacus. Et comment il le décrit ? Comme un physiologue.
Un physiologue, c'est-à-dire ?
Ben, un expert de la nature, un savant, un philosophe, en somme. Et certaines sources antiques vont même jusqu'à dire que leur sagesse pourrait être antérieure à celle des Grecs comme Thalès.
Attendez, des philosophes avant les Grecs ? Là, ça change quand même pas mal de choses. Ça nous sort du cliché du druide juste avec sa serpe et son gui, quoi.
Complètement. D'ailleurs, même l'origine du mot druide, on en débat. Est-ce que c'est juste celui qui connaît les chênes ? Ou, comme le suggère Xavier Delamarre, quelque chose de plus cosmique, celui qui connaît l'arbre du monde ?
L'arbre du monde. Ça ouvre des perspectives.
Tout à fait. Et cette vision de maître de sagesse, elle est cohérente avec l'étendue des connaissances qu'on leur prête dans ces extraits, notamment en astronomie, en géométrie, en mathématiques.
Ah oui ? Comme quoi, par exemple ?
Alexander Thom, par exemple, il fait un lien direct avec les bâtisseurs de mégalithes. Il les voit comme des géomètres, des astronomes très compétents.
Les bâtisseurs de Karnak, de Stonehenge ?
Ou leurs prédécesseurs directs, oui. Ils auraient maîtrisé les lignes, les cercles, les ovales. Probablement avec des outils simples et efficaces comme la corde et les piquets pour faire compas, et puis l'équerre.
Et j'ai lu dans les notes préparatoires, les extraits mentionnent le fameux triangle 3-4-5, celui qu'on appelle de Pythagore.
Exactement. Et il serait gravé à Gavrinis, bien avant Pythagore.
Mais ça, c'est énorme, si c'est vrai. Ça remet en question toute l'histoire des sciences qu'on apprend.
Ça la nuance fortement, en tout cas. Et puis, il y a l'orientation des sites. Newgrange, en Irlande, aligné sur le soleil levant du solstice d'hiver. C'est pas un hasard, ça.
Non, ça demande des calculs, une observation précise du ciel.
Une connaissance astronomique très pointue, oui. Les textes évoquent même la possibilité qu'ils aient pu prédire les éclipses. Peut-être en connaissant le cycle de Saros.
Le Saros, c'est quoi ça ?
C'est un cycle d'un peu plus de 18 ans, connu aussi des Babyloniens d'ailleurs, qui permet de prévoir le retour des éclipses solaires et lunaires.
Incroyable ! Et la croix celtique alors ?
Cette fameuse croix dans un cercle, elle pourrait symboliser justement ça. L'union de la géométrie terrestre, la croix, les directions cardinales, l'équerre peut-être, et puis les cycles célestes, le cercle, le compas. Une science unifiée.
C'est vertigineux comme niveau de savoir. Mais ils n'étaient pas que des astronomes ou des architectes, si ? Les extraits parlent aussi de médecine ?
Ah oui, tout à fait ! Les druides étaient aussi des médecins réputés. On trouve des mentions de l'utilisation de plantes très puissantes, hein, comme l'aconite, la belladone.
Des plantes dangereuses aussi.
Oui, ce qui suppose une connaissance fine des dosages. Et souvent cueillies avec des rituels particuliers, liés aux phases de la lune, ou avec certaines paroles. Ça montre un lien très fort, très ritualisé, avec la nature.
Et pas que les plantes, j'imagine.
Non, Marcellus de Bordeaux, un auteur gallo-romain, décrit une pharmacopée très riche qui utilise les trois règnes. Végétal, minéral et animal.
Et l'eau ? Il y a une insistance sur l'eau, non ?
Énormément. Des grandes stations thermales de l'époque romaine, comme Grand, Fontaine Salée, Vichy, jusqu'à la simple fontaine du coin. L'eau était vue comme une source de vie, de guérison, un passage aussi peut-être.
Fascinant. Et quid de la magie, de la divination ? C'est souvent ce qu'on retient ?
Alors, la magie, dans ces textes, c'est pas le lapin sorti du chapeau. C'est défini comme une transformation profonde. De la réalité ou de la perception de la réalité.
Une transformation.
Oui. On distingue les enchanteurs qui travaillaient sur la fascination, on dirait peut-être hypnose, suggestion aujourd'hui, des devins qui lisaient les signes, le vol des oiseaux, les entrailles des animaux, la ruspicine.
La fascination collective. Les extraits parlent de la harpe irlandaise dans les épopées, capable d'endormir ou d'influencer une armée entière.
Oui. Ou Tacite, qui décrit cet effet sur les légions romaines, c'est troublant. Ça fait écho à des techniques modernes, en bien ou en mal d'ailleurs, de manipulation des foules, ou même plus positivement, à la sophrologie, au travail sur les états de conscience.
Et au cœur de tout ça, il y a des croyances fondamentales, j'imagine.
La plus centrale, d'après ces textes, c'est l'immortalité de l'âme. La mort n'est que le milieu d'une longue vie. C'est une citation attribuée par Lucain.
Juste un passage.
Voilà, un passage vers l'autre monde. Et la Bretagne, parfois, est vue comme ça, comme une terre liminale, un pays de la mort, mais pas au sens morbide, plutôt comme un seuil vers cet autre monde, vers Avalon.
Si ce savoir était si riche, comment il s'est transmis? Ou est-ce qu'il a influencé d'autres traditions? Les extraits donnent des pistes là-dessus. Hein.
Oui, plusieurs pistes sont évoquées. D'abord, l'idée que les druides seraient les héritiers directs du savoir mégalithique, peut-être lié au fameux Tuatha Dé Danann, en Irlande.
Le peuple mythique d'avant les Celtes.
Exactement. Ensuite, on a déjà parlé des liens possibles avec les premiers philosophes grecs. Et plus tard, des connexions sont suggérées avec la franc-maçonnerie.
Ah bon? Comment ça?
Ben, via la géométrie sacrée, l'importance des bâtisseurs, les symboles comme le compas et l'équerre qu'on retrouve.
Intéressant. Et malgré l'arrivée du christianisme, ce savoir aurait survécu?
C'est ce que suggèrent les extraits, oui. Parfois de manière un peu souterraine. Via des courants comme le pélagianisme, né en Bretagne insulaire.
Une hérésie pour l'Église officielle.
Oui, parce qu'il insistait beaucoup sur le libre arbitre. Mais aussi et surtout dans les traditions populaires. Le culte des arbres, des sources, des pierres, qui a perduré pendant des siècles.
Ces trois éléments reviennent souvent, non? Arbre, fontaine, pierre.
C'est une triade symbolique clé, oui. L'arbre pour la sagesse, la fontaine comme source de vie et passage, la pierre pour la permanence, le fondement. L'auteur les relie même à l'alchimie et au tarot.
Et il y a toutes ces figures mythologiques incroyables qui semblent incarner ces idées. Aès, la femme serpent.
Oui, Aès, ou la Guarache, en Bretagne, liée à la transformation, à la pierre, à l'eau, à la mort initiatique. Et puis Arthur, bien sûr, le maître des pierres, Merlin, l'enchanteur.
Cernunnos aussi, le dieu cornu.
Cronan, ou Cernunnos, oui, le dieu de l'autre monde, des cycles de vie et de mort. Et Lugos, le dieu lumineux, dieu de tous les arts. Ils incarnent différentes facettes de cette science druidique qui mêle nature, esprit, cosmos.
C'est complexe, en fait.
Très complexe. En résumé, ce que nous montrent ces extraits de Le Scouzec, c'est une image des druides qui est, à mille lieues du barbare en robe blanche, sacrifiant sous un chêne. On a plutôt des philosophes, des scientifiques...
Des gardiens d'un savoir ancestral.
Oui, un savoir holistique qui ne sépare pas le matériel et le spirituel, l'observation rigoureuse de la nature et la transformation intérieure.
Ce qui nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Au-delà de l'intérêt historique, est-ce que cette vision druidique, cette science unifiée, connectée à la nature, à la spiritualité, à la conscience, est-ce qu'elle pourrait nous dire quelque chose aujourd'hui? Dans notre monde actuel, qui a souvent tendance à tout séparer, le savoir, la nature, le sens, est-ce qu'il n'y aurait pas là des pistes, des perspectives à réexplorer? Qu'en pensez-vous?
Mika Podcast. Ésotérisme, paranormal et mystère.